François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po. La guerre entre Israël et le Hamas a déchaîné les passions dans les universités les plus renommées des États-Unis. Après la tenue d'innombrables manifestations antisémites sur les campus, le Congrès américain a auditionné les dirigeants de l'université d'Harvard, celle de Pennsylvanie et du MIT. Et en parallèle, les autorités américaines ont ouvert des enquêtes. François Hellebrun, vous êtes diplômé de l'université d'Harvard en 1988. Vous avez été surpris des manifestations de haine d'Israël sur son campus et de l'incapacité de sa présidente et de son administration à les condamner. Pourquoi ?
Je n'ai pas été totalement surpris, et comme vous l'avez indiqué, j'ai été diplômé de cette université prestigieuse en 88, et ce qui m'avait frappé quand j'y étais arrivé en 1986, arrivant de France, militant juif engagé, j'étais tout de suite allé voir les étudiants de l'association juive de Harvard, Jewish Harvard Association. Et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. À l'époque, moi j'étais comme beaucoup de gens de notre génération, j'étais beaucoup engagé pour les juifs refusniques d'Urs qui étaient coincés, pour les juifs éthiopiens qui étaient en train de partir, pour les juifs syriens qui étaient oppressés, pour Israël évidemment, pour la lutte contre l'antisémitisme. Et ce qui m'avait frappé avec les étudiants juifs de Harvard, qui étaient très nombreux, c'est qu'ils ne se réunissaient que pour des manifestations cultuelles et religieuses. Ils m'ont dit, on fait plein de choses sympas, Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, j'ai dit, vous faites rien pour Israël, contre l'antisémitisme, pour les juifs persécutés dans le monde, non, rien. Et là où mon étonnement est devenu encore plus important, c'est quand quelques mois plus tard, il y a eu l'organisation d'une grande manifestation nazie à Chicago, défilé de nazis à Chicago en tenue de SS. Donc je suis retourné voir les étudiants de l'association juive de Harvard. Je lui ai dit, allons à Chicago, allons contre-manifester, et même allons nous battre contre eux. Et là, ils m'ont regardé affolé, atterré, en me disant, mais ici, c'est pas du tout l'Europe. Ici, c'est une free country, c'est un pays libre, et toutes les opinions peuvent s'exprimer. Et là, j'ai compris qu'il y avait un hiatus fondamental entre même des juifs américains et des juifs européens, avec un historique et un passé qui n'est pas le même. Il y a peu d'associations juives américaines qui sont conscientes de ça et qui se sont battues. Une qui s'est toujours battue parce qu'elle a une vraie vision internationale, c'est l'AJC, American Jewish Congress. L'Anti-Defamation League aux États-Unis s'est toujours beaucoup battue. Mais cette idée du freedom of speech est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la Constitution américaine et que donc la liberté d'expression, même des expressions haineuses, même des expressions intolérables, eh bien, la liberté est plus importante que l'encadrement de cette liberté, même quand c'est des appels à la haine. Donc la dérive qu'il y a dans les universités américaines, parce que c'est une vraie dérive, et a des causes plus profondes que simplement ça, mais est aussi structurellement ancrée dans cette croyance américaine que la liberté d'expression prime sur tout, y compris sur la protection de différents types de minorités. Et c'est là où ça devient dramatique, et ça a été un des débats très sains, à la fois aux États-Unis et en Europe, et dans le monde occidental, sur ce qui se passe dans les universités américaines, c'est que cette expression totale de la liberté, quand même, porte atteinte à la liberté des autres. Et comme disait Saint-Just, mais ce n'est pas du tout l'idéologie américaine, Saint-Just, le grand révolutionnaire, disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Eh bien, aux États-Unis, si, à l'université de Harvard, et on reviendra peut-être sur ce qui s'est passé à Harvard, la présidente de l'université, le docteur Claudine Gay, devant le Congrès américain, a dit que ça dépendait du contexte pour condamner l'appel au génocide des Juifs. Et donc, il fallait relativiser. Et cette relativité n'existe pas en France, heureusement. En droit français, l'appel au génocide est condamné par la loi. Si ça arrive à l'université, les étudiants seraient poursuivis pour apologie de la haine, incitation à la haine raciale, et passerait en commission disciplinaire et pourrait être poursuivi pénalement. Aux États-Unis, ça n'existe pas, mais là, il y a une réflexion profonde qui va avoir lieu aux États-Unis sur ce sujet.
On a tous vu hein, cette audition au congrès des trois présidentes des plus prestigieuses universités américaines et de leurs propos d'ailleurs qui ont été formatés par des juristes hein, des trois universités. C'est pour ça qu'elles répondaient de la même façon, avec les mêmes mots. Cela dépend du contexte. Pourquoi, à votre avis, ces présidentes d'universités relativisent et ne condamnent pas systématiquement l'appel au génocide des Juifs? Alors, l'extrait aussi qu'on a vu, et ça a duré 5 heures, hein, 5 heures d'audition au Congrès, mais tout est parti de la revendication qu'on a beaucoup entendue à travers le monde, c'est de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Et c'est à partir de ça qu'on a parlé du génocide juif, parce que de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Ça veut dire que ce qui existe aujourd'hui entre le Jourdain et la Méditerranée, qui s'appelle Israël, avec ses habitants, doit disparaître pour que la Palestine soit libre.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le remettre dans le contexte, c'est exactement ça la question. La question vient en fait de l'appel à la destruction d'Israël qui est masqué par ce slogan, qui n'est pas vraiment masqué puisque c'est très explicite, et d'ailleurs c'est un slogan qui est aussi repris dans les campus en France, mais qui est justement interdit dans les campus en France, puisque c'est, ils ne sont pas interdits parce qu'ils s'expriment, mais ceux qui le profèrent peuvent être poursuivis parce que c'est l'appel à la destruction d'un État souverain et c'est un appel à un génocide ou un ethnocide puisque c'est chasser les Juifs de la terre d'Israël, détruire l'État d'Israël. Et donc effectivement, c'est un appel à un crime génocidaire de faire disparaître un peuple d'un pays. Donc vous avez tout à fait raison sur ce point. Sur pourquoi et vous avez aussi tout à fait raison d'expliquer que les trois présidents d'université, parce qu'il n'y avait pas qu'Harvard, il y avait MIT et UPenn, l'université de Pennsylvanie, très grande université, ont toutes les trois formulé la même chose, comme si elles avaient été briefées par le même cabinet d'avocats, et ce qui a en fait été le cas. Et en fait, elles respectent la loi fédérale américaine, c'est ça qui est fou. Et c'est là où les États-Unis doivent se poser des questions sur cette première article de la Constitution, sur freedom of speech. Ça ne doit pas, tout ne peut être toléré. Et ça va au-delà des universités. Et cela fait longtemps que nombreuses associations antiracistes européennes et même associations antiracistes américaines comme l'Anti-Defamation League protestent contre cet amendement et ce premier amendement de la Constitution qui explique que tout est possible, qu'on peut tout dire. Et moi, je sais, on a eu des bagarres il y a une dizaine d'années en France contre le groupe Facebook, qui est devenu maintenant le groupe Meta, qui est propriétaire de Facebook et Instagram, et aussi contre le groupe Twitter, qui est devenu X. Au nom de ce premier amendement de la liberté d'expression totale, tous les contenus haineux étaient autorisés en ligne, y compris l'appel au terrorisme, l'appel au djihad, l'appel au meurtre de différentes minorités, y compris les Juifs, et c'était une autorisation totale. Et les organisations juives antiracistes, comme la LICRA, SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs, ont poursuivi en justice Facebook et Twitter, ont gagné en justice en France, puisqu'on a un cadre légal, mais il y a très peu de sanctions. Et la loi Avia qui a failli passer, qui est passée au Parlement, mais qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, envisageait des sanctions contre les réseaux sociaux. Et le problème aux États-Unis, c'est que, au-delà des universités, c'est le produit aussi de la très grande liberté d'expression sur les réseaux sociaux, puisque sur X aujourd'hui, comme sur TikTok, le réseau chinois qui fait un carton auprès des jeunes, les appels à la haine sont totalement fréquents. Ils ne sont pas du tout sanctionnés, ils ne sont pas du tout encadrés. Le groupe Meta avec Facebook et Instagram a pris un certain nombre de mesures, mais c'est quand même assez limité. Mais aujourd'hui, Twitter, X et TikTok sont des pourvoyeurs de haine, sont des pourvoyeurs de propagande djihadiste et islamiste, notamment TikTok, qui a sur son réseau social, et il y avait une excellente enquête dans le journal, l'excellent magazine Franc-Tireur de la semaine dernière, TikTok propulse et pousse les contenus haineux d'un site qui a un logo qui ne veut pas dire grand-chose, qui est Agi+, AJ+, c'est Al Jazeera+. C'est un média de la chaîne qatari djihadiste, fréro-musulmane et proche du Hamas, qui diffuse une propagande pro-palestinienne très active sur TikTok. Et l'autre inquiétude qu'on a, c'est que de très grandes influenceuses, comme notamment les deux sœurs Hadid, qui sont des mannequins américaines très célèbres avec plus de 40 millions de followers, ont un père palestinien et sont des propagandistes palestiniennes de choc qui appellent à la haine d'Israël, au soutien à Hamas et à la destruction d'Israël. Donc il y a tout un tissu de propagande qui touche la jeunesse et qui, par écho, se retrouve dans les opinions de la jeunesse américaine en complète déshérence et de plus en plus hostile à Israël.
Alors, vous qui voyez ça de là où vous êtes, quelles sont les causes profondes de l'hostilité grandissante des jeunes Américains à l'égard d'Israël et leur sympathie tout aussi grandissante à la cause palestinienne ?
Eh bien, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc il y a l'impact des réseaux sociaux qui est terrible, parce qu'aujourd'hui les jeunes, de par le monde, les jeunes occidentaux en grande partie, ne se renseignent pas, ne s'informent pas par les médias traditionnels. Ils ne lisent pas Le Monde, ils ne lisent pas Le Figaro, ils ne lisent pas. Ils s'informent soit par des applications spécifiques, et donc c'est ce qu'on appelle les boucles d'influence. Donc ils sont beaucoup sur TikTok, notamment les 18-25 ans, qui sont les plus touchés. Ils sont aussi sur Instagram, ils sont sur X, et ils rentrent dans des boucles virtuelles où, en fait, dès qu'ils s'intéressent à des contenus pro-palestiniens, ils ne verront plus que des contenus pro-palestiniens, de plus en plus excessifs. Ces contenus sont poussés par des robots très efficaces, manipulés par les Russes, les Chinois, mais aussi les Iraniens et les Qataris, qui investissent énormément en désinformation sur les réseaux sociaux. Et comme X, Twitter et TikTok sont des réceptacles à haine, ça booste énormément ces contenus haineux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et là, on revient aux universités américaines. Tout ce qu'on appelle le wokisme, qui est plutôt que le wokisme, c'est la poussée idéologique indigéniste qui est de plus en plus forte, la poussée idéologique identitaire. On ne raisonne que par minorité, sous-minorité, on ne croit plus à l'universalisme et à l'humanisme, et c'est les minorités opprimées qui sont des minorités colorées ou racialement colorées dans la logique américaine, qui s'opposent à la suprématie blanche. Et d'ailleurs, la présidente d'Harvard, Dr Claudine Gay, est une spécialiste de ces propos, puisqu'il y a 3 ans, il y a un article du Wall Street Journal très intéressant sur ça, il y a 3 ans, elle disait que les deux grandes menaces dans le monde, il y a 3 ans, donc en 2020, c'était la pandémie du Covid et la suprématie blanche. Donc raisonner en termes de race, raisonner en termes de guerre de race est devenu un discours très influent et très prédominant dans les universités américaines, ce qui peut paraître étonnant, mais il faut voir que les universités américaines, depuis une vingtaine d'années, sont devenues des universités de ce qu'on appelle du Sud global. D'abord, il y a des financements qui viennent de pays en voie de développement de manière très importante. J'ai vu récemment que le Qatar avait dépensé plus de 5 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable, dans des financements de programmes dans les universités américaines. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de plus en plus d'élèves viennent du Sud global, de plus en plus de professeurs, de doyens et de présidents d'universités. Et donc, les universités américaines ne sont plus vraiment des universités américaines, ce sont des universités internationales, où donc la lutte des races, mais pas la lutte des classes, la lutte des races est un vrai sujet. On ne peut pas tenir certaines formes de discours, où on ne peut pas ostraciser certaines populations, et ça, c'est tant mieux. Mais bizarrement, les Juifs, qui sont pourtant été toujours une minorité opprimée, apparaissent comme des suprémacistes blancs, comme des colonialistes, et le discours anticolonialiste qu'il y a aux États-Unis sur le projet sioniste, l'aventure sioniste, est quelque chose qui fonctionne, et qui fonctionne particulièrement bien chez les jeunes. Et je trouve ça particulièrement inquiétant, parce qu'on a l'impression de revivre à 50 ans de distance ce qu'il y a eu sur la guerre du Vietnam dans la jeunesse gauchiste américaine, et qui est en train d'arriver aujourd'hui, et que Israël est perçu comme un État colonialiste et non pas comme une démocratie en guerre contre un terrorisme islamiste. Et c'était vraiment une dérive importante, et hélas, les autorités, les présidents, les professeurs, qui doivent être des modèles dans ces universités, suivent la masse plutôt que d'essayer de garder raison, d'enseigner, d'informer. Et au contraire, ils suivent le mouvement, l'anticipent. Et c'est tout à fait dévastateur à court terme pour les États-Unis, mais je pense à moyen terme, c'est dévastateur pour Israël, parce que le soutien américain est clé, et si cette jeune génération pense cela, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand cette jeune génération arrivera au pouvoir des États-Unis, ce sera un vrai problème pour les démocraties occidentales et pour l'État d'Israël.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.